9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, à votre santé naturelle ce matin avec mon invité. Je reçois le Viking, docteur Jean-Pierre Willem. Vous êtes chirurgien et anthropologue, on vous surnomme le médecin aux pieds nus. Et vous avez été le dernier assistant en 1964 du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix. C'était à Lambaré, au Gabon. Vous étiez médecin résident à l'hôpital de Libreville. Il avait au moins 90 ans à l'époque, hein, le docteur Schweitzer.
Ah, il avait 90 ans.
Mmh. Il avait un très fort accent alsacien et vous avez surnommé le Viking.
Le Viking.
Le Viking.
Viking. Hein, le Ah, mon fieu, comment fas-tu ? Ah, il parlait alsacien, tout le monde a son accent. Hein. Mmh. Moi, j'ai un accent ardennais, mais vous ne l'avez pas vu.
Bon, tu vois, que Covid.
Ah bon, vous avez remarqué quand même.
Bah oui, tous les auditeurs adorent votre accent des Ardennes.
Punaise, pourtant j'ai pris des cours pour gommer tout ça.
Hein, bon, on dit Willem ou Willem ?
Ah, on dit Monsieur Willem.
Monsieur Willem.
On dit les Water, mais Monsieur Willem. Pardon. I'm sorry.
On va faire en français si vous voulez bien. Vous étiez-vous encore étudiant à l'époque où vous rencontrez le docteur
Schweitzer ? Non, j'avais pas ma thèse. Vous savez que donc on passe sa thèse en sixième année et moi j'étais au cœur de la sixième quoi. Bon, puis j'étais de passage, hein, mais il m'a dit tu restes. Bon ben je suis resté. Vous pensez, Schweitzer à l'époque c'était l'homme le plus connu au monde. Hein, il y a eu trois grands personnages au XXe siècle, donc c'est Schweitzer, Che Guevara et Mère Teresa.
Ça vous arrange parce que vous les avez rencontrés tous les trois ?
Ben, je ne vais pas dire les Beatles.
Ah
bah si. Qu'est-ce que ça m'amène, les Beatles ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à part Imagine ou Noir, c'est Noir ?
Non, Yellow Submarine, enfin des trucs
comme ça. Oui.
Bien, vous débarquez à Lambaré, donc c'est là où il avait fait son hôpital village. Hein.
Oui, exact.
Vous étiez tout jeune, vous ?
Oui, j'avais 23 ans.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a vu pour la première fois, le docteur Schweitzer ?
Ben, il m'a trouvé sympathique et mon accent m'a sauvé. Parce qu'il avait peur que j'ai l'accent parisien, il ne supportait pas les Parisiens. Je ne sais pas pourquoi à ce niveau, mais le fait que j'ai un accent qui se rapprochait de l'Alsace, ça lui a plu. Hein. On se retrouvait dans une petite ambiance... Et alors, il m'a dit, tu restes. Et j'étais avec un jeune étudiant vétérinaire, pourtant il s'occupait pas mal d'animaux et tout, c'était moi. Et alors, je suis arrivé, moi, pour deux jours d'habits, etc. Et alors, il m'a passé même un casque, parce que là-bas, il fallait se protéger du soleil. Il m'a passé trois chemises, trois belles chemises blanches, dont j'en ai gardé une, où c'était mis « Docteur Schweitzer ». Alors je dis, je les retire, oh non. Ça te profitera un jour, qu'il m'a dit, tu les gardes. Et puis les bas blancs, parce qu'il y avait comme un uniforme, et la lampe tempête.
D'accord.
Dont je reparle dans ma dernière lettre, comme vous êtes curieux de savoir, parce que j'ai eu l'occasion de soigner la folie des Africains dans une méthode qui était à l'africaine.
Alors, Alain Baréné, il avait imaginé un village hôpital africain. En quoi est-ce que c'était avant-gardiste, ça ?
Ben, c'était avant-gardiste. D'abord, les familles venaient accompagner le malade. Bon, et alors, personne ne payait, mais en revanche, donc, il les envoyait dans les jardins, les hommes. Je me souviens même, un petit peu, il fallait ande, on marchait, il y avait la marche
opa.
Militaire. Opa, voilà, opa, ça... Il avait 90 ans, bon. Et alors, ils allaient et ils leur donnaient à manger. Donc, je me souviens, c'était des pilchards, l'équivalent des pilchards, les gros poissons, vous vous souvenez. Et puis, des bananes, etc. Et les familles venaient accompagner et faisaient la popote, ce qui fait que les baraquements étaient un peu noirs. Et c'est ce qu'on reprochait, parce qu'il y avait la fumée. Mais à l'arrivée, il y avait quand même 50%, il y a 50% de moins de temps pour qu'ils guérissent. Parce qu'ils étaient dans une ambiance, c'est pas comme dans un hôpital, vous avez la visite, surtout dans un EHPAD, et combien il y en a qui meurent dans les EHPAD, dans la tristesse, dans la solitude et tout. Et lui, il voulait pas ça. Il voulait que les familles soient au contact de leurs patients. Et déjà, ça, c'était déjà un avantage.
Oui, oh, c'était révolutionnaire, ça, pour...
C'était, oui, c'est...
Même la façon dont il avait orienté les bâtiments, c'était
oui, il y avait une orientation, voilà, c'était réfléchi. Avec au niveau du passage du soleil, etc. Et plus, il y avait des mythes, donc il fallait construire avec des bois imputrescibles, etc. Enfin, tout était calculé. Et en plus, il avait construit donc un jardin, que j'appelais le jardin d'Éden, où il y avait tous les fruits. Parce qu'il disait qu'ici en Afrique, il faut de la vitamine C, qu'il disait. Voilà. Et puis il aimait bien les plantes médicinales. Alors, j'en connaissais quelques-unes, là, comme je l'ai fait avec Che Guevara, qui lui aussi était très attiré par les plantes. Alors, je lui en proposais... Qui marchait bien, par exemple, dans la thalassémie, la drépanocytose, etc. Il y a des plantes merveilleuses, parce que si vous croyez à la nature avec un grand N, là où il y a des pathologies, là où il y a les remèdes. Mais là, faut comprendre quand même le phénomène. Tout est calculé, tout, il y a une harmonie. De même chez l'homme, c'est une merveille. Hein, il y a tout, enfin, une merveille, il y a des fois, c'est vraiment que la catastrophe, mais enfin, habituellement, l'homme, c'est une merveille, tout est calculé, etc. On est protégé, on a même 5 barrières pour nous protéger. Quand vous demandez à un médecin quelles sont ces barrières, il ne sait pas. Mais alors, depuis que j'en parle souvent, donc il y a même un professeur quand même qui m'a appelé, il m'a dit « Comment vous avez découvert les 5 barrières ?» Ben, j'ai dit « Voilà, parce que j'ai travaillé sur la question, etc. » Et alors, ces barrières, bien souvent, quand vous avez perdu le sens du goût, etc., elles sont effondrées. C'est la dernière barrière, la barrière hémato-encéphalique.
On va revenir tout à l'heure sur les barrières. Okay. On va terminer sur le docteur Schweitzer. Vous avez été son assistant, son dernier assistant, oui. Pendant combien de temps à peu près? Une petite
six
année
mois. 6 mois. 6 mois, oui. Ouais. 6 mois, puis après, il est mort on appelle ça du syndrome du glissement. C'est-à-dire, quand on a terminé sa vie, c'est comme une bougie, ben vous l'arrêtez, pof, il est parti de plein gré, quoi. Ouais. Il n'a pas eu les angoisses de Mitterrand, etc., avant la mort, il était prêt, je servais un peu de starting block mental, parce que bon, comme j'étais quand même dans une école de, comment je vais dire, religieuse, j'avais quelques rudiments et tout, ça lui plaisait, donc on échangeait, quoi.
Oui, parce qu'il était très protestant.
Il était pasteur.
Il était pasteur et il aimait énormément parler de religion.
Oui, évidemment, ouais. Évidemment. Ça, c'est évident. Et puis, il jouait Bach, etc., souvent le soir, avant de dormir, en bon garnement, on était quand même une quinzaine de médecins, et puis pas mal d'infirmières, bon, on faisait un petit peu la Java, quoi. Mais il aimait qu'on fasse, qu'on chante, etc., quoi.
D'un point de vue de votre pratique aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste de Schweitzer? Qu'est-ce qui vous a transmis?
Non, c'était quand même, grosso modo, le médecin de famille. C'est-à-dire, maintenant, ça n'existe plus, le médecin de famille. On est tout orienté vers le fric, etc. Quand je pense qu'il y a 3000 médecins qui sont partis en Suisse pour avoir doublé leur salaire, moi, ça me... J'étais un des derniers médecins pieds nus, un des derniers médecins de famille. Je faisais des remplacements, etc., dans un contexte de médecin de famille. Ça me plaisait. On avait le suivi de la famille, etc. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, les gens, ils font du nomadisme. Hein, on circule, il y a tellement de spécialistes et tout, puis ils sont plus ou moins mal soignés. Bon, à partir de là, on fait du nomadisme, mais il n'y a plus de médecins qui s'occupent de vous, de toute la famille. Ils ont eu le grand-père, la mère, les enfants, ça c'était beau.
Un journaliste a écrit quelque chose sur vous récemment que j'aime beaucoup. Il a dit que vous êtes le médecin que vous avez toujours rêvé d'avoir.
Oui, mais ça veut dire quoi, ça?
C'est bien. Ça veut dire que vous êtes le médecin que tout le monde aimerait avoir.
Ah, aimerait avoir, oui, comme... Oui. On prend comme le neveu.
C'est
comme...
un compliment.
Ah oui, c'est un compliment, oui. Oui, c'est exact. Ça,
alors,
ça me plaît.
Vous avez publié plusieurs livres récemment. Le dernier, c'est « 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes » qui vient de sortir chez Guitre et Daniel. On va se replonger dans un livre majeur que vous avez publié il y a 2 ans maintenant, qui concerne la maladie d'Alzheimer, Willem, qui s'appelle « Alzheimer et odorat quand les arômes restaurent la mémoire » chez Guy Trédaniel.
Vous avez voulu revenir ce matin, c'est vous qui me l'avez demandé, sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a eu une étude danoise qui, sur beaucoup de patients, hein, parce que c'est presque 1 million de patients, dit que le virus de la Covid-19 décuplerait le risque de développer Alzheimer, Parkinson ou un AVC. Et ça a été présenté au 8e congrès de l'Académie européenne de neurologie. Et pour avoir une idée des choses, c'est 3,5 fois pour Alzheimer, 2,6 fois plus important de développer une maladie de Parkinson. Et pour un AVC, c'est 2,7 fois. Ça veut dire que si on a eu le Covid, on a plus de chances de développer ces maladies. Vous pouvez nous expliquer le lien?
D'abord, je signale que j'étais le premier, là, 2 ans, à le signaler. Tout le monde m'est tombé sur le dos. Tout le monde. Et maintenant, je l'avais prévu, c'est évident, puisque le grand signe majeur d'Alzheimer, vous avez perdu le goût et l'odorat. Ce qui suppose que les 5 barrières ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez attraper donc le Parkinson, mais ça dépend des récepteurs. Les récepteurs finaux, c'est-à-dire, c'est des récepteurs, c'est un petit peu des enclaves, des cupules qui reçoivent un peu le message. Et alors, suivant donc le message, suivant l'acide aminé, etc., vous aurez ou, quand c'est dopaminergique, c'est le Parkinson, quand c'est central, c'est l'Alzheimer, et vous avez aussi la sclérose en plaques et la maladie de Charcot.
Ce qu'on appelle des maladies neurodégénératives.
Neurodégénératives, c'est suivant.
C'est les plus connues, celles-là, en fait.
Et alors, c'est un petit peu. Il y a quand même des variantes. Hein. Vous ne soignez pas, par exemple, le Parkinson, mais une partie, quand même, comme. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une démyélinisation, c'est-à-dire, vous n'avez plus de myéline. De même, la maladie de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, donc, qu'on a citée, c'est pareil. Pourquoi plaque? Parce que toute la myéline, c'est un petit peu comme en électricité, vous savez, vous avez une bobine autour donc du fil. Eh bien là, il n'y en a plus. Ce qui fait que ce n'est plus protégé, etc. C'est vraiment la sclérose en plaque, on appelle ça une démyélinisation.
Alors le SARS-CoV-2, c'est donc le virus le virus de la Covid hein, oui. Aujourd'hui. Comment est-ce qu'il pénètre dans l'organisme?
Ah ben, il n'y a qu'une voie, c'est pour ça qu'on porte des masques, il passe par les narines. Hein, c'est la seule voie, comme pour la grippe. C'est la seule voie, comme c'est il a un tropisme respiratoire, comme la grippe, du reste, on peut même soigner de la même façon la grippe que le Covid. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un masque. Et puis, alors, il faut quand même avoir un brin intelligent pour dire quand est-ce qu'il faut que je porte le masque. Quand vous allez faire une fête dans votre famille, ce qui est arrivé chez moi, il y a une fête, et bien à la fin, donc on boit, on chante et tout, puis à un moment donné, ça postillonne. Et bien, il y a eu la moitié sur le flanc, dans ma famille. Vous vous rendez compte?
Quand ça?
C'était là, 6 mois, là.
D'accord.
Et bien, sur le flanc. Et j'avais dit, mettez vos masques, hein, il suffit qu'il y en ait un, pour contaminer tout le monde. Et c'est pas plus compliqué. Si vous allez dans une rave party, on dit rave ou rave, rave party, c'est-à-dire quand les jeunes font de la java.
Alors on a le céleri rave et la rave party.
La rave party.
Oui.
Alors quand ils font la java à 500 ou à 5000, eh bien il y en a la moitié qui vont le choper, ou dans les boîtes de nuit, ou... C'est d'une évidence, et surtout les fêtes familiales, on croit que parce qu'on est en famille qu'on va pas le choper. Mais si, déjà si vous prenez ça, la porte d'entrée elle est verrouillée, vous risquez rien. Et alors en plus, pourquoi vous chopez donc une maladie, c'est que vous n'avez plus de défense. Donc, mais la médecine officielle n'a aucun moyen pour requinquer la défense. Nous on en a, hein, y a en particulier le Stim+, que je préconise depuis 30 ans, il y en a qui ont moins de cancers, ils ont quand même et peu ont des infections. Mais c'est vraiment un doping de l'immunité.
Alors, on va revenir sur cette étude. Effectivement, le lien qu'on fait avec la maladie du Covid et les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, dont vous parliez, Parkinson et peut-être la SEP. Et on verra comment, justement, grâce aux huiles essentielles, on peut se prémunir. Si vous avez des questions à poser au docteur Willem, vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec le docteur Jean-Pierre Willem qui est avec nous. Alors docteur, on va reparler du lien qu'il existe entre l'infection du Covid-19 et les infections neurodégénératives. Mais là, vous êtes venu avec une fiole qui perturbe tout le monde sur ce plateau. C'est une fiole de jouvence.
Oui. Et alors, donner la définition de jouvence.
Je sais pas, c'est quand on a les joues qui avancent.
Voilà. Non. Hey, on n'est pas au patronage, là. Non, c'est puisque, oui, évidemment, je mets un peu la pagaille dans les missions. C'est quand même du médical. J'ai une bonne doctoresse, comme tout le monde, hein, je peux tomber malade. J'ai une bonne doctoresse qui m'a dit, écoutez, pour que vous rajeunissiez, je vais vous conseiller une pommade. On dit un onguin. Bon. Et alors, je dis, bon, amenez votre onguin. Bon. Et ça fait 2 mois que je le prends, eh bien, mes rides sont barrées. Mes rides, on peut le constater.
Sans trucage, hein. J'ai pas mis d'éclairage sur la vidéo.
Il n'y a pas eu de ravalement chez moi.
Un petit peu. Enfin, un petit peu les joues.
Pourquoi voulez-vous que... Même, qu'est-ce que je ferais si j'étais le plus beau de la Terre? Si j'étais Alain Delon? Qu'est-ce que ça m'avance? Dites-moi voir qu'est-ce que ça m'avance.
Non, c'est 100% naturel.
Je vais reprendre le métro, je vais reprendre mon boulot... Je vais saluer les gens, etc. Et après.
Bon, ça fonctionne, en fait, votre
onguin. Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. En 2 mois, et toutes les petites rides sont barrées. Évidemment, il y a les rides, celles-là, on les garde. De même, celles-là. De même, autour des yeux. Mais tout le reste, c'est barré. On peut le constater.
Et là, on trouve vous, parce que là, Fatima Zora est en train de chercher votre.
Je me suis permis de lui laisser l'adresse. C'est une adresse en Allemagne.
Ouais. Bon. Et on trouve?
Ben, il y a une adresse en Allemagne, et bon, et puis on la commande, quoi. Avec un téléphone, avec etc., etc. Voilà.
Bon, et ça fonctionne, ça coûte combien?
On me l'a offert.
Ah oui, non, on ne sait pas, on n'a pas une idée du prix.
Ça va être 20 ou 30 euros, quoi.
Oui, bon, allez, ça reste raisonnable.
Ouais. Mais vous économisez un ravalement. Un ravalement, c'est entre 5 et 10 000. Hein. Et là, pour 40 euros... Alors là, les chirurgiens esthétiques, ils vont m'engueuler, moi. Ils vont m'appeler demain.
Hein. Bien, docteur.
C'est vrai que vous quelqu'un avez... à remercier. Est-ce que je peux me permettre?
S'il vous plaît.
Parce que c'est une petite récréation qu'on souffre. J'étais à Saint-Denis, hein, les puces. Non, les puces. Puis
c'est,
me suis gouré.
C'est Saint-Ouen, les puces, non?
Bah, je sais pas, je me suis gouré. Moi, quand je marche. Hein, bon. Et puis, je savais plus où j'étais. Et puis, je rencontre une petite dame. Qui était dans une voiture à 2 places, sans permis. Enfin, c'est la voiture qui n'avait plus de permis. Bon. Puis j'ai sympathisé avec elle. Elle devait être très connue là-bas. C'est Fatia Saadi. Bon. Et puis elle fait de l'humanitaire comme moi. Alors c'est pour ça, elle est dans les femmes solidaires. C'est pour ça, alors pour la remercier de sa délicatesse, de sa gentillesse. Voilà.
Fatia Saadi. Et alors, elle vous a ramené jusqu'au puce ou quoi?
Non, j'ai 2 places et moi, il faut déjà 2 places pour mon corps. 1m90 dans une boîte à fromage, je rentre pas dedans, moi.
Bien. Alors, les liens, docteur Willem, qu'il existe entre l'infection au Covid-19 et les infections qu'on appelle neurodégénératives. Donc déjà, on a vu que ça rentrait par le nez, les voies olfactives. Oui. Et ensuite, quel est le lien que vous faites donc entre cette infection-là et les autres maladies?
Avec les maladies neurodégénératives, chacune a une origine. Mais enfin, on appelle souvent, quand on traite d'une question, on dit c'est polyfactoriel. C'est-à-dire, vous faites le tour de les métaux lourds, les nanoparticules, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est, comment on appelle ça, les colorants, enfin il y a
qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, en fait.
Oui, enfin l'épigénétique, ça vous aide à redresser la génétique qui est perturbée, ou ça empêche que votre génétique Et ça requinque l'épigénétique. Du reste, c'est un mauvais mot. On aurait dû dire paragénétique. C'est là, ça longe génétique. Il y a eu une erreur au niveau, ils n'ont pas fait du grec, ces gens-là. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein. Alors, donc, alors chacun, selon l'orientation, par exemple, la sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot, dont je me suis occupé, c'est souvent les métaux lourds. Je me souviens d'avoir soigné un chanteur célèbre qui avait des belles dents. Il avait des belles dents quand il avait 20 ans. Et il avait encore des belles dents. Bon, alors je me suis permis de lui demander est-ce que c'était tes vraies dents. Ah, il s'est fâché, etc. Alors que c'était, à l'époque, donc, on faisait des dentiers, etc. Et dedans, vous avez des métaux. Des métaux. Et c'était les métaux qui avaient causé le... Mais lui... pour ne pas...
C'est une pollution, c'est ça? C'est une pollution aux métaux lourds?
Ça pollue, ouais. Quoi, dans les dents, surtout au niveau donc, des dents. Et le pauvre, il est mort comme Socrate, c'est-à-dire c'est la mort la plus horrible des maladies. C'est que vous êtes paralysé, et la paralysie, comme Socrate, elle grimpe, puis alors vous étouffez à la fin. C'est atroce. Là, dans ces cas-là, on peut provoquer la mort, si vous voulez. Enfin, c'est un autre problème, là. Mais c'est atroce. Et là, il n'y a pas beaucoup de traitements. Il faudrait, évidemment, chélater les métaux lourds, etc. Vous savez, il y a des fois, on cale sur certaines maladies, hein, comme par exemple le cancer du pancréas. C'est très difficile. C'est très difficile. Puis alors, il y a beaucoup de... Il y a même des cancers qu'on, normalement, on devrait tous les guérir. C'est par exemple le cancer du côlon, alors qu'on meurt encore du cancer du côlon, avec nos stratégies, nous. Parce qu'on soigne, on appelle ça la médecine holistique, c'est-à-dire totale. Donc il faut requinquer déjà la flore intestinale, c'est la première barrière. Les bactéries que l'on donne, c'est des petits soldats. Donc, mais il en faut une, comme pour toute guerre, il faut quand même une quantité assez importante pour aller combattre l'ennemi. Et puis après, vous avez les compléments, c'est-à-dire la rate, c'est plein de, par exemple, tous les globules blancs, les macrophages, tout ça. Et on en trouve partout. On en trouve aussi à l'intérieur des cellules endothéliales. Et alors, la dernière barrière, il y a les astrocytes et qui vous protègent, etc. Mais quand c'est effondré, ben, il n'y a plus rien à faire.
Alors, on y va pour les cinq barrières. On les redonne dans l'ordre, si vous voulez bien, oui. Docteur Houlem, sachant que beaucoup de médecins en donnent trois et vous en rajoutez deux. Alors, on y va sur les barrières.
Bon, alors, l'immunité intestinale, les compléments, le complément, vous avez les cellules endothéliales, c'est-à-dire c'est la lumière, autrement dit c'est l'intérieur des vaisseaux. Vous avez le sang lui-même qui se protège, et puis vous avez la dernière, la barrière hémato-encéphalique. Et là, il n'y a plus rien après, c'est le grand vide. Et là, bon, et on arrive quand même à récupérer ou à amoindrir certains symptômes, comme la sclérose en plaques, etc.
Alors, vous dites que finalement, longtemps, les troubles de l'odorat n'ont pas intéressé la médecine, n'ont pas intéressé les chercheurs. Ces troubles de l'odorat, ça s'appelle des... dysnosmies, c'est ça?
Oui, mais enfin, c'était...
C'est le mot... J'ai trouvé ça dans votre livre. Hein.
On perd le sens olfactif. C'est le sens olfactif qui est beaucoup plus noble que le sens du goût. Le goût olfactif, il faut savoir que, regardez, les animaux comme le chien, le chat, qui s'est très développé l'olfactif, avec leur olfactif, c'est un GPS miraculeux. Quand vous les jetez le long des routes, là, en ce moment, à l'été, eh bien, ils sont capables de faire 1000 kilomètres de retrouver leur maître. Les chats, pareil, mais enfin, les chats sont beaucoup plus intelligents que le chat. Le chat, il est soumis, il va vous rejoindre, vous le cognez, je sais pas pourquoi, ce pauvre bête. Est-ce que le chat, oh, bah, je suis, là, il y a quelqu'un qui m'offre le gîte et le couvert, je vais rester là, puis voilà. Mais il est capable, encore plus que le chien, de traverser l'autoroute, etc. C'est miraculeux, ça. C'est miraculeux. Ça s'appelle le système olfactif. Voilà, l'homme en a très peu. C'est normalement c'est une lame jaune qu'on appelle jaune. Le celui du chat c'est le plus vaste et puis le chien un peu moins. Mais l'homme c'est atrophié nous. Nous c'est atrophié. On renifle un peu. Bon, il faut déjà que les parfums soient percutants pour qu'on les hume.
D'ailleurs, si on se bouche le nez quand on mange, on n'aura pas du tout la même perception du goût et on n'aura quasiment pas de perception du goût. Hein.
Bah, j'ai jamais fait cette acrobatie, et je vais le faire ce soir, mais enfin...
Faites l'essai.
Le goût, comment je vais dire, si je mange par exemple une banane, le goût, c'est pas terrible, hein, c'est neutre, hein. Hein, à part, je sais pas lesquels qui sont peut-être les mûres, etc. Non, c'est quand même un signe. Un signe, c'est presque pathognomonique. Ça veut dire un signe qui est spécifique du trouble du système olfactif.
Qu'est-ce que vous conseillez donc à ceux qui nous écoutent et qui ont soit perdu l'odorat, soit perdu le goût suite à une infection au SARS-CoV-2?
Ben, il faut recommencer à zéro, c'est-à-dire il faut requinquer son immunité qu'on a perdue. Et à ce propos, pourquoi les vaccins, ça marche, mais enfin avec les conséquences que vous devinez, pourquoi ça marche? Parce qu'il faut mettre des saloperies dedans, c'est-à-dire qui vont faire effet antigène, c'est-à-dire ça va être des éléments agressifs, qui fait que automatiquement l'organisme est chargé de neutraliser tout ça. Donc il sollicite toute l'immunité qu'on a. Mais quand vous êtes comorbide, etc., que vous luttez avec 3 produits chimiques pour l'hypertension, etc., vous n'en avez plus. Et puis eh ben, vous mourrez dans l'EHPAD. Hein. Mais alors là, donc ça va épuiser les dernières cellules immunitaires. Voilà comment ça se passe. Parce qu'un vaccin, si vous n'y mettez pas de l'aluminium et tout, puis on a découvert qu'il y a au moins 20 produits dedans. 20 produits. Mais il faut se faire... j'étudie ça à cause de ma newsletter. Mais attention, il y a beaucoup de fake news. C'est ça qui m'agace. Il y a du complotisme et j'ai du mal à avancer, justement, dans mes recherches, etc. Parce que... Mais là, c'est des scientifiques qui s'y ont mis, qui ont vérifié. Il y a une liste que je vais mettre dans ma newsletter de produits incroyables qui ont office d'antigénique, donc de solliciter votre immunité. Et l'immunité, elle monte comme ça. Artificiellement, elle monte. Voilà, c'est simple comme tout. C'est voilà le vaccin. Alors là, nous, donc, on prépare déjà d'autres vaccins pour la 4e vague. C'est-à-dire, il y en a à peu près 4. On est à la 8e vague.
8e vague. Donc.
Mais il y a un assaut 4 fois par an, qui est presque saisonnier. Donc on le voit vers le mois d'octobre. Bon, déjà, quand même, nos spécialistes, nos experts, eh bien, nous disent qu'il n'y a pas d'immunité. Ils l'avouent. C'est quand même... Il y a de quoi être chagrin de prendre ça. Pourquoi on me donne ça? Il y a très peu, oui, ça se conserve quelques semaines. Ben, alors, à quoi ça sert un vaccin si ce n'est pas pour vous mettre une bonne immunité?
Enfin, il y a deux choses. Il y a l'immunité du vaccin et il y a l'immunité que vous confère la maladie. On s'est rendu compte qu'avec la dernière vague de contamination, notamment avec le BA5, que les gens pouvaient se recontaminer dans un délai de 4 semaines. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'immunité.
Ben, c'est bien ce que je vous dis.
Oui,
là.
Mais pas des gens vaccinés, je pense des gens qui avaient attrapé la maladie.
Oui, oui.
Donc il n'y a même pas d'immunité.
Il n'y en a plus. Oui. Et alors les gens se disent rétrospectivement, depuis 20 ans, depuis 2 ans ou 2 ans et demi, on nous met des produits qui sont sans intérêt et il n'y a pas d'immunité, alors qu'on s'appuie beaucoup là-dessus en disant vous aurez de l'immunité, il n'y en a pas. On s'en rend compte, il n'y en a pas. Alors là, donc, il prévoit déjà un vaccin, mais obligatoire à partir de 50-60 ans. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi 50-60 ans? Ah oui, oui, j'ai la solution. C'est parce qu'il y aura des problèmes hospitaliers, d'hébergement. Et c'est souvent donc les vieux qui occupent les plumards. Et alors, voilà, bon. C'est quand même bizarre. Enfin, on en apprend tous les jours, et puis...
Bon, en tout cas, vous, vous êtes là pour nous expliquer, oui. Un, comment soutenir notre système immunitaire, comment le restaurer, et j'aimerais qu'on parle de cette fameuse rééducation olfactive pour celles et ceux qui ont perdu l'odorat et le goût oui. suite à une infection au SARS-CoV-2, donc vous nous oui. le direz dans un instant. Si vous avez des questions oui. à poser au docteur Willem, vous pouvez le faire en direct, profiter de sa présence au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, docteur Willem, vous allez nous parler de votre olfactothérapie. Donc, maintenant, on a perdu l'odorat, on a perdu le goût suite à une infection au SARS-CoV-2.
Oui.
Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent, encore une fois?
Alors,
quelles sont les huiles essentielles qui fonctionnent dans la restauration, justement, comme voilà. on le disait tout à l'heure, pour récupérer son odorat?
Alors, il y a eu des travaux un petit peu partout et j'ai retenu surtout les travaux d'experts algériens qui ont trouvé donc des huiles essentielles, donc qui portent un nom, ils appelaient ça l'huile essentielle de pin d'Alep, ils sont partis de l'idée que donc le virus atteint le récepteur. Je ne vous donne pas le nom parce que c'est compliqué. Et alors, tous ces virus, etc., ils vont créer une inflammation dans le cerveau. Et pour le bloquer, ils ont trouvé 5 huiles essentielles. Et ces 5 huiles essentielles, elles avaient la particularité d'avoir la même molécule. Hein, je vais vous les citer. C'est le carvacrol. Vous savez comment ça se... vous avez les... Il y a les... Les plantes sont divisées, les huiles essentielles, en 10 ou 12 catégories qui ont chacun une action spécifique. Il y en a qui font maigrir, il y en a qui vous libèrent le cerveau, etc. Bon, et pour l'infection, c'est les phénols et les monophénols. Et dedans, à l'intérieur, vous avez une dizaine de molécules. Et là, c'est la carvacrol. Alors la carvacrol, vous en trouvez, je vais vous donner donc les noms, vous en trouvez donc dans la sarriette des montagnes. Eux, ils ont mis donc dans l'huile de pin d'Alep. Et alors, je vais vous retrouver l'origan d'Espagne. Parce que les origans, suivant l'écosystème, n'ont pas les mêmes molécules. Ça, on sait ça, donc c'est celui d'Espagne qui nous convient le plus. La sarriette des montagnes, vous avez le serpolet. Le serpolet, et puis le thym à carvacrol, parce qu'il y a le thym à linalol, etc. Donc les quatre. Et alors ce carvacrol, eh bien, il va attaquer le virus au niveau du cerveau. Donc on est au cœur du problème.
Là, alors, donc ça c'est suite à l'étude des chercheurs algériens.
Algériens.
Donc ouais. Là c'est pour les gens donc, qui ont été infestés, on est d'accord?
Ah oui, pour ceux qui sont, c'est-à-dire qui ont un Covid long. Les séquelles du Covid. Enfin,
on le prend sous forme d'inhalation.
Oui, non, vous pouvez c'est mieux en inhalation quand on peut inhaler parce qu'il y en a qui sont pas diffusables. Et alors, vous pouvez aussi en mettre. On a déjà 2 fois 2 gouttes, c'est-à-dire si on veut généraliser un peu l'emploi, il y en a qui combien on en prend. En principe, c'est 2 fois 2. Et alors, vous pouvez le prendre aussi en massage sur les poignets, vous pouvez sur le thorax, etc. En revanche, vous êtes prêt à aller en réanimation, vous faites ce qu'on appelle l'embaumement. L'embaumement, ça correspond donc un petit peu aux momies. C'est-à-dire, ça correspond à mettre, vous avez 4 huiles essentielles qui sont spécifiques, presque spécifiques pour attaquer le Covid et la grippe. Hein, je vous les redonne, il y a les 2 eucalyptus, il y a l'eucalyptus radiata, qui est spécifique du carrefour ORL. L'eucalyptus globulus, c'est quand la grippe, etc., tombe sur le poumon, et c'est ça qui occasionne la mort. Et vous avez l'huile essentielle la plus connue, c'est le Ravintsara. Le Ravintsara qui nous arrive donc de Madagascar, c'est la plus. Et il y en a une autre qui est intéressante, c'est l'Orient Noble. Voilà les 4. Vous prenez les 4. Alors, si vous tombez, vous la chopez, puis que ça se complique, vous faites l'embaumement. C'est-à-dire que vous mettez 10 gouttes de chaque, des 4, et vous massez là, le thorax et le haut du dos, 4 fois par jour. Et là, en 5 jours, c'est jugulé. Ça s'appelle l'embaumement vivant, hein, qui rappelle un peu la momification. La momification, vous avez les corps, normalement, tous les corps se putréfient, etc. Et quand ils mettent leurs huiles essentielles, eh bien, il n'y a pas, les corps sont conservés, sont desséchés, sont conservés, tout simplement. C'est ça qui m'avait donné l'idée, là, à 50 ans, d'essayer cela dans une pathologie, quoi. Parce qu'il y a tout dans la nature.
Alors, on me demande si le docteur Willem peut reciter les huiles essentielles conseillées par les chercheurs algériens, les 5. Quand vous parlez des 5, ça veut dire qu'il faut les utiliser en même temps,
non,
ou on a choisi
non,
une?
Non, parce que c'est du carvacrol, donc vous en prenez 2, parce que bien souvent, dans une plante, il y a plusieurs cofacteurs, plusieurs autres molécules. Alors, je vais vous les donner.
De toute façon, vous pourrez voir la vidéo hein, sur la chaîne YouTube et vous pouvez réécouter le podcast. Mais c'est vrai qu'alors on nous les redemande là, et c'est vrai que vous êtes allé un peu vite sur le nom des huiles essentielles.
Bon, alors je vais. Il y a l'origan d'Espagne, hein, qui porte un nom en latin, mais je vous en dispense. La sarriette des montagnes, Satureia montana, le serpolet. Je crois qu'il y avait une chanson où il y avait du serpolet, enfin peu importe. Alors, c'est le Thymus serpilum, donc le serpolet, c'est très connu dans nos campagnes, hein, et le thym, qu'on dit chimiotypé, c'est-à-dire qui est dans lequel il y a plus de carvacrol. Donc, on dit le thym à carvacrol. Comme donc, il y a les virus, donc, qu'il crée une inflammation au niveau du cerveau, etc., eh bien, à ce moment-là, donc, vous stoppez un peu cette évolution dégénérative qui vont vous donner, donc, des complications telles que la dépression, ça peut être aussi la dépression, une neurodégénérescence, c'est Alzheimer, si vous voulez, des lésions cérébrovasculaires et des maladies démyélinisantes, telles la sclérose en plaques, voilà. Alors, les chercheurs algériens se sont intéressés tout récemment à l'huile essentielle produite par une jolie ombellifère méditerranéenne appelée faux amifluette. Alors, il y a en latin, Amoides pusilla verticillata, qui n'est pas en vente parce qu'ils ont dû expérimenter ça, je ne sais pas à quel niveau. Et alors, il y a même le nom arabe, hein. Hishbat el Baras en arabe, signifiant l'herbe à la lèpre. Herbe à la lèpre. Il nous révèle que l'un de ses composants appelé carvacrol ou isothymol, c'est une autre molécule, se fixe avec beaucoup d'efficacité sur les récepteurs spécifiques de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Vous voyez, c'est précis. Ainsi, il empêche la fixation du virus de la COVID-19 sur les cellules et neurones du cerveau. On ne peut pas mieux. Et il réduit les conséquences de l'infection à la COVID-19 dans le cerveau. Il faudrait normalement que je prenne contact avec ses confrères, parce qu'ils n'ont pas mis dans quelle université ça a lieu. En principe, on pourrait retrouver ces travaux, parce que moi, à ce moment-là, je le sais déjà, je connaissais déjà le carvacrol, mais pour ma bonne gouverne, je peux le conseiller à ma newsletter, etc., qui vont, les gens mettent un petit peu que je fasse une formulation.
Oui, parce que jusqu'à présent, vous nous aviez conseillé le romarin.
Alors, il y a le romarin, oui, qui marche aussi, mais ça, c'est pour récupérer la mémoire. Je vais vous y dire, c'est pour ça que je me suis permis de faire le livre sur Alzheimer, parce que d'abord, il faut savoir que je suis anthropologue, donc j'étudie l'homme dans la société, et j'ai fait la paléoanthropologie, et j'ai étudié l'homme de Néandertal, etc. Bon, et ce qui fait que j'ai un petit peu, comment on appelle ça, je sais que par exemple l'homme de Néandertal, il mangeait cru. Et quand vous mangez cru, vous ménagez l'hippocampe et l'amygdale. L'amygdale qui est le centre de l'affection et l'hippocampe, quand vous mangez cru. Quand vous mangez cuit, c'est tout est mort, tout tout est mort, donc la nourriture n'est plus vivante. Ça, il faut connaître ça. Alors, moi-même, je peux pas manger cru tout le temps, parce qu'on a quand même quelques petits problèmes quand c'est cru en permanence, surtout si vous mettez de la vinaigrette à chaque fois. Bon, et alors, de temps en temps, il faut que je mange quand même un peu cuit, hein, et pas forcément des frites, hein. Et bien, les gens, ils disent, oh non, on peut pas manger cru. Mais au moins 60% de cru, ce qui fait que ça améliore donc au niveau d'Alzheimer. Pourquoi j'ai découvert romarin? À 40 ans, je donnais romarin. Romarin, on le donnait dans le système digestif. On le donnait.
Alors, il y a qu'une variété de romarin?
Verbenone, il y a...
Voilà, il y a verbenone et oui. Cinéol. Et donc, pour la mémoire, c'est...
Ben, c'est cinéol, mais le verbenone, on peut en mettre sur les poignets, etc. On alterne un petit peu, parce que dès lors qu'il change de nom, donc il y a des propriétés en plus, hein, automatiquement. Alors, là, je reviens donc à mes clients, là, 40 ans, puis alors ils me disaient, mais docteur, comment on récupère la mémoire? Bon, j'étais étonné, quoi. Puis alors, au bout de 30 ou 40, quand même, j'ai noté ça. Et je l'ai ressorti 40 ans, donc maintenant. Maintenant, et c'est pour ça que j'ai fait le livre, on a la solution. Alors, que fait ce romarin? Eh bien, tout simplement, il vous fait récupérer l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est elle qui permet de lancer les neuromédiateurs, c'est-à-dire la dopamine, la sérotonine, etc. Elle restaure la communication. C'est pour ça que c'est très intéressant. Ce qu'on fait, on l'a découvert, la médecine chimique a découvert les quatre produits, mais ils donnent rien, ils sont agressifs. Et on vient de les abandonner, c'est plus remboursé et tout. Mais déjà, ils avaient déjà pigé le fait qu'il faut restaurer l'acétylcholine. Or, miraculeusement, vous vous rendez compte, cette huile essentielle, elle a tout pour soigner l'Alzheimer. C'est incroyable.
Après, ouais, vous expliquez qu'il faut agir sur l'acétylcholine et la glutamine, les deux neuromédiateurs.
Hein. Voilà. Et alors, pour mon romarin, ça coûte 5-6 euros, il faut humer. C'est-à-dire, vous ouvrez le bouchon et vous humez pendant une minute. Pas 4 minutes, parce que ça va vous brûler. 4 fois par jour. Et au bout d'un mois, vous m'appelez, non, c'est même pas la peine de m'appeler, vous récupérez la mémoire, vous me retrouvez, ah ben c'est bien le docteur Willem là, ils ont retrouvé la mémoire, voilà.
Vous revenez quand vous voulez, doc, à très bientôt, c'était un plaisir, moi c'est la rentrée, moi quand je vois le docteur Willem, je passe une bonne semaine, vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net, vous verrez la vidéo du docteur Willem et vous pourrez voir les effets de son traitement à 23 euros, on a regardé sur internet, sur lui, et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.